Bien, bonjour. Juste une toute petite précision. Donc, je ne suis plus inspecteur des bibliothèques de la ville de Paris, mais j'ai repris la tête d'un service. Un service qui travaille entre autres sur l'accueil et les services au public, et dans lequel on a cette année particulièrement renforcé de manière considérable le partenariat avec les centres de loisirs et développé aussi toutes sortes d'actions dans les quartiers politiques de la ville avec les équipes de développement local. Et une autre des facettes de ce service, c'est qu'on travaille sur des constructions et des programmes culturels et architecturaux des nouvelles bibliothèques. Et entre autres, on a deux bibliothèques dont les projets sont, à mon sens, assez novateurs. Une bibliothèque qu'on voudrait consacrer beaucoup aux jeux vidéo et une autre bibliothèque que j'ai ciblée pour la génération ludique. Vous remplacez le I de ludique par Y, c'est la génération Y. Alors bon, les élus ne veulent pas trop entendre parler quand même du terme génération ludique, ça leur fait un petit peu peur pour des tas de raisons de négociation, etc. Mais le concept a été accepté. Donc j'espère qu'il y aura au moins deux bibliothèques un peu novatrices sur ce domaine à la ville de Paris. Donc les gentils organisateurs de cette journée d'études m'ont demandé de faire une brève introduction sur les pratiques culturelles des enfants et des jeunes. C'est un intitulé qui, comme vous le voyez, est assez vaste et peut recouvrir de nombreuses catégories d'âge. Hein. Le bébé, le tout petit, qui est une personne, qui est un lecteur, l'enfant, le préadolescent, ou l'adolescent, dirait François de Sigly, hein. L'adolescent, le jeune adulte, ou l'adolescent, etc., etc. Alors, on peut discuter très très longuement de ces catégories, essayer de les définir. Ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il existe une grande perméabilité entre ces catégories, hein. Ne serait-ce que parce que chacun mûrit, je dirais, différemment. Donc, à un moment ou à un autre, en décalage, en adéquation avec sa catégorie, etc. Donc, des catégories qui sont perméables. Dans ce processus, il y a des âges qui sont plus facilement observables, voire plus intéressants, parce que tout simplement, ce sont les âges de la préadolescence et de l'adolescence, ou ce sont des âges de la construction de soi-même, y compris de son identité culturelle. Et ça, c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans une société où l'individu doit obéir à une certaine injonction de devenir soi-même, hein, c'est-à-dire d'être un individu libre, autonome, en accord avec sa nature profonde. Voilà, donc la préadolescence ou l'adolescence, l'ado s'émancipe, hein, alors qu'à la période de l'enfance, il est encore quand même sous l'influence de ses parents. Là, il s'émancipe, il construit sa future identité, il la construit entre autres avec ses pairs. Et ça, c'est un élément important. Par ailleurs, ça tombe bien si j'ai plus envie d'observer cette catégorie ou ces catégories, parce qu'on connaît très très bien les pratiques culturelles des 14, 19 ans et des 20, 24 ans grâce à la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français qui vient de sortir et qui est toute récente, alors que le travail remarquable de Sylvie Octobre sur les 6-14 ans date de 2002. Donc d'une période où il n'y avait pas l'extraordinaire, je dirais, diffusion d'Internet et surtout des portables. Donc je vais privilégier un petit peu ce que l'on sait des adolescents, hein, en partant quand même du principe, et je vous donnerai quand même quelques indications, que les pratiques adolescentes ne sont pas intervenues du jour au lendemain, qu'elles se sont quand même construites, et entre autres, à la préadolescence. D'ailleurs, on l'observe, puisque vous savez fort bien qu'à partir de 13 ans, il y a une disparition, hein, des tranches d'âge dans nos bibliothèques. Alors, quand même, quelques toutes petites précautions d'usage au départ. C'est que toutes ces évolutions, hein, si elles nous intéressent particulièrement, et si je m'intéresse plus particulièrement à ces catégories autour de la préadolescence et de l'adolescence, c'est parce que derrière, on l'a observé, toutes les grandes mutations culturelles qu'on a pu regarder depuis la Seconde Guerre mondiale et entre autres depuis 1973 où il y a des enquêtes sur les pratiques culturelles ont été portées par une génération. C'est une génération qui les a initiées et ensuite les générations suivantes les ont, le cas échéant, reprises, amplifiées, etc. C'est vrai aussi bien, je dirais, de la baisse tendancielle du nombre de livres lus que des pratiques musicales qui ont explosé et ensuite de la pratique audiovisuelle. Donc, quand on observe une génération culturelle, faut bien se dire que ces pratiques, ce ne sont pas des pratiques de jeunesse qui vont disparaître, hein, mais qu'elles se maintiennent. Je vous ai livré d'ailleurs une petite image qui donne tout le contexte, hein, vous voyez, le génisse de la société d'un côté, et puis finalement, quand on a été bercé dans le rock, eh bien, on ne devient pas du jour au lendemain un fan qui n'écoute plus que de la musique baroque. Hein. On maintient au moins ses écoutes musicales de sa jeunesse. Voilà. Donc, les caractéristiques générationnelles, elles sont intéressantes parce que finalement, elles ont vocation à modifier tout le champ culturel. Et finalement, les pratiques des adolescents d'aujourd'hui, c'est les pratiques des adultes de demain. Donc, elles intéressent peut-être alors plus encore les bibliothèques adultes que les bibliothèques jeunesse. Mais bon. Alors, si on observe ça, hein, une génération culturelle, elle va se construire avec quand même pas simplement une catégorie d'âge, mais avec une rencontre, il faut quand même derrière qu'il y ait tout un aspect social, hein, participer à des événements ou participer à quelque chose d'autre, une évolution technologique. En gros, si on observe que tous les jeunes nés entre 95, voire avant, hein, 90, et puis aujourd'hui, ils sont nés avec quoi? Ils sont nés avec Internet, avec les portables en tout genre. Donc, on va dire qu'ils ont une caractéristique commune et qu'on va les appeler des digitales natifs, hein, les natifs de l'ère digitale. Alors, il y a des limites à cette approche, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde, et je vais un peu schématiser en disant voilà, les gens ils pratiquent ça et ça, il y a des limites, ces limites on les connaît, il y a quand même des limites d'âge, on ne fait pas tout exactement à la même âge, même dans une catégorie d'âge, hein, entre 15 et 19 ans par exemple, on ne pratique pas exactement la même chose sur le domaine par exemple des sorties culturelles. À 15 ans, sorties culturelles, vous êtes encore un petit peu coincé à la maison par vos parents, alors qu'à 19 ans, vous allez à tous les concerts que vous voulez. Il y a aussi évidemment une autre limite bien connue, c'est celle du genre. Vous savez bien que les pratiques masculines et féminines battent aujourd'hui notre idéal de mixité. Il suffit d'aller dans une librairie pour regarder le nombre de collections de livres pour filles et puis de comparer au nombre de collections pour garçons, où il suffit tout simplement de regarder l'auditoire qui est devant mes yeux pour se rendre compte qu'il y a des pratiques qui sont féminines, entre autres de lecture. Et puis, il y a évidemment quand même des fractures sociales qui existent et qui réapparaissent au fur et à mesure qu'on avance en âge. Il y a des fractures au moment de l'entrée au collège, au moment de l'entrée au lycée ou de la sortie du lycée. Donc ça, il y a quand même des différences. Il n'empêche que quand même, hein, on va dire que les digital natifs qui sont donc nés, là, vous voyez, j'ai un petit peu hésité sur les dates, entre 1990 et 2010, sont nés avec des ordinateurs, puis avec Internet, puis avec des téléphones portables. Ce sont des digital natifs. Ça ne veut pas dire que ce sont des férus d'informatique et des développeurs à tous azimuts. À la limite, ils connaissent moins l'informatique peut-être que leurs aînés parce qu'ils n'ont pas eu affaire à des logiciels compliqués, des ordinateurs épouvantablement complexes. Ah, ils ont des matériels beaucoup plus faciles à utiliser, mais ils sont nés avec. Donc, ce sont quand même, je dirais, des technophiles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette technologie? Ils vont se caractériser tout de suite avec un très fort niveau, effectivement, de connexion et d'assiduité devant Internet, avec des pratiques multitâches où on verra cumulatives, on fait plusieurs choses en même temps sur son même appareil. Et puis, ces appareils sont d'abord essentiellement tournés vers la communication et puis vers certaines formes de loisirs. Donc, la première chose, effectivement, qui caractérise ces digitales natives dans leur pratique, c'est que il y a une omniprésence, je dirais, d'Internet et puis des mobiles en tout genre. Hein, vous voyez un petit tableau tiré des pratiques culturelles, 15, 19 ans, 20, 24 ans, ils sont 57 ou 58% à utiliser Internet tous les jours, hein, d'une manière assidue, on verra, c'est plusieurs heures. Et que 91% des jeunes de 15 à 19 ans se sont connectés. Hein, plus on avance vers les âges jeunes, plus vous avez un fort relais de connexion. Alors, on pourrait regarder derrière, hein, il y a plein de statistiques, je ne vais pas vous prendre des statistiques, mais en 2008, par exemple, on comptait 9 millions de blocs français et 85% d'entre eux étaient tenus par des 15-25 ans. Alors, 34% des 12-15 ans, 23% des 16-19 ans géraient quotidiennement leurs blocs. Vous voyez, donc il y a énormément de choses. Et une des caractéristiques récentes, par exemple, c'est qu'il y a, paraît-il, 20,3 millions de Français aujourd'hui inscrits sur des sites communautaires, Facebook, Flickr, MySpace, etc. Et que les données récentes portent sur les 11-15 ans qui se sont massivement inscrits. Il y aurait 2 100 000 jeunes Français de 11-15 ans adeptes de ces sites communautaires. Donc, vous voyez, une présence massive sur Internet. Alors, ce sont quand même d'abord, je dirais, des instruments pour communiquer, pour rester en communication avec ses pairs, avec son réseau, avec ses amis, ses 100 millions d'amis sur Facebook, tout ce que vous voulez, etc. Vous savez très bien que quand on est connecté sur ordinateur, même pour faire son devoir, on ouvre sa messagerie de connexion instantanée, MSN ou une autre, pour rester même à la maison, même à la bibliothèque, si la bibliothèque permet MSN, de rester en relation. Après, ce sont aussi des instruments, je dirais, de loisirs. Le portable, l'ordinateur sont des instruments de loisirs qui sont utilisés pour le téléchargement, puis l'écoute ou le visionnage de la musique. Donc, il y a un renversement. Par rapport à dans le temps où on voyait que la pratique télévisuelle était la toute première, il y a aujourd'hui un petit renversement. La télévision, vous voyez, par tranche d'âge, les jeunes la regardent beaucoup moins. Ils la regardent toujours, c'est quand même une pratique répandue, plus répandue que livre, mais beaucoup moins assidûment que leurs aînés. Et deuxième petit tableau, vous voyez que c'est tout à fait caractéristique. Sur votre gauche, vous voyez les durées moyennes, alors là, par âge, ici, d'écoute de la ou de regard de la télévision. Et puis de l'autre côté, les pratiques sur écran. Et vous voyez que les pratiques sur écran, pour les 15-24 ans, ont supplanté l'observation de la télévision, etc. Et ont libéré aussi, je dirais, la contrainte d'être dans les temps sociaux de regard de la télévision. Alors c'est vrai partout, il y a des tas de statistiques qu'on pourrait trouver, y compris sur Internet. En 2008, par exemple, les internautes passent plus de temps sur Internet qu'à regarder la télévision. Voilà, ça c'est donc des caractéristiques. Si on veut aller un petit peu plus en détail, on se rend compte, par exemple, une étude en 2008 qui a été faite auprès de près de 10 000 collégiens, 9 600, âgés de 11 à 15 ans, montre que 82% des enfants utilisaient le web pour s'aider dans leurs devoirs, y compris trouver des devoirs déjà tout faits, à copier-coller. Que la deuxième activité était bien sûr l'utilisation de messageries instantanées, de chat, l'envoi d'emails, etc. Et que, autre particularité, la musique par exemple, voire le regard de vidéos, et puis peut-être très très rapidement demain, la lecture de livres se fait par des écrans. Pas forcément d'ailleurs uniquement l'écran d'ordinateur, c'est de plus en plus l'écran de iPhone, smartphone, de tous ces consoles portables, et puis peut-être demain l'iPad. Vous voyez, le téléchargement de la musique, l'extrait de musique, l'écoute de musique en streaming, ça se fait donc sur les écrans. Donc on dit que c'est la génération qui illustre parfaitement la convergence des écrans, c'est-à-dire qu'on a un seul appareil qui fait tout. Évidemment, et annoncé par ce petit dessin, la lecture dans cela. Une bibliothécaire jeunesse férue de lecture jeunesse. La lecture, c'est au moment au moins de la préadolescence et l'adolescence, une pratique qui est malheureusement en diminution. Alors ça ne veut pas dire qu'on lit moins, ça veut dire qu'elle est secondaire, ça veut dire qu'on pratique une lecture importante de la presse gratuite, pas de quotidien, de la presse, qu'on traduit, qu'on lit beaucoup évidemment sur Internet, on n'a jamais autant lu, mais on pratique une culture zapping, une lecture de picorage, mais que la lecture et l'intensité, c'est-à-dire le nombre de livres lus, baissent. Et cette baisse, elle a été annoncée par d'autres générations. C'est une baisse en intensité. Le nombre de grands lecteurs ou de moyens lecteurs baisse de génération en génération depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc une pratique de lecture qui est quand même un petit peu combattue. Même chose pour la presse quotidienne, etc. Où il y a une baisse tendancielle, effectivement, de la lecture de la presse quotidienne. Alors, si on on part un petit peu, qu'on s'émancipe de ces simples pratiques et qu'on réfléchit un peu plus à un autre niveau sur les usages. Ça veut dire que ce sont des usages. Si je suis sur Internet ou sur mon smartphone, je m'affranchis quelque part de la prescription de la médiation. J'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin du bibliothécaire, de l'instituteur, du professeur, etc. Et les outils technologiques, et entre autres les réseaux communautaires, hein, Internet, ces blogs, ces réseaux, Facebook, bah, ça construit un monde qui est tout à fait affranchi, je dirais, de la médiation, où on se retrouve justement uniquement à dialoguer avec ses pairs. Puis on voit aussi qu'il y a d'autres instances à la limite de légitimation ou de conseil. Alors on va plus découvrir des choses par le conseil de sa tranche d'âge et de ses copains de son âge, etc. Les blogs, hein, les recommandations qui apparaissent sur les sites communautaires sont plus importants. Et ça tombe d'une certaine manière assez bien parce que corrélativement, il y a une croissance aussi d'œuvres autoproduites et autodiffusées sur Internet. Donc, une culture qui utilise des documents numérisés, donc un moindre attachement au support. Hein, une très grande majorité des jeunes n'achètent très peu de CD ou de DVD, l'important étant de télécharger la musique, un MP3, du DivX, etc., et de le regarder sur son écran. Mais alors quid demain du livre. Une moindre distinction aussi de la sphère, je dirais, intime, et de la sphère publique, hein, puisque si je suis interconnecté en permanence avec mes copains pendant que je fais autre chose et que j'écoute de la musique, je suis à la fois dans un espace personnel et dans un espace de relier, de communication, hein, voilà, et je peux le faire aussi bien, je dirais, de chez moi, hein, sur mes devoirs, je suis en même temps en communication instantanée avec autrui. C'est aussi une culture, je dirais, de l'instant et du temps continu. Hein. Dès que Google met 3 secondes à répondre ou que l'ordinateur met 3 minutes à afficher, mais quoi, il a deux tensions, cet appareil, c'est énervant. Il y a une exigence de réponse, hein, rapide et puis à toute heure. Parce qu'effectivement, Internet est ouvert tout le temps, ce qui n'est pas du tout le cas de nos bibliothèques dont les ouvertures sont réduites. Alors, j'ai fabriqué une extraction, une requête sur le système informatique des bibliothèques de la ville de Paris pour voir heure par heure ce qui était pratiqué, y compris donc les renouvellements en ligne ou les réservations en ligne. C'est fabuleux, toute la nuit il y a des réservations. Ah, le seul moment, et des renouvellements, le seul moment où il y a une petite baisse d'intensité, c'est 5h du matin. Paris s'éveille. Mais dès 7h, ça redémarre. Et les bibliothécaires jeunesse font la même chose. Alors, moins présents en pleine nuit, mais par exemple, à partir de... En gros, le repas familial est terminé, et vous voyez les bibliothécaires, enfin les jeunes adhérents, renouveler, se connecter, interroger le catalogue à partir de donc 8h30, 9h du soir. Et au moins jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc une culture de l'immédiat, du temps continu, c'est une culture effectivement cumulative qui fait qu'on pratique plusieurs choses à la fois. Hein. On chatte tout en faisant ses devoirs, tout en écoutant de la musique, etc. Hein. Certaines enquêtes montrent que 71%, voire plus des jeunes, accentuent ces pratiques cumulatives. Est-ce qu'on peut faire vraiment ça en bibliothèque? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique tout en chattant, tout en faisant du copier-coller, une recherche sur Internet? Bon. C'est une culture, enfin, où la différence entre production et consommation tend à s'atténuer parce que quand je suis sur un réseau social, j'y mets mes photos, j'y mets mes vidéos, etc. Donc je suis à la fois le consommateur qui regarde ce que les autres ont fait, mais je produis. Un tout petit extrait des pratiques culturelles des Français. Vous voyez l'explosion, pas forcément de l'ensemble des pratiques amateurs, mais ben, tout simplement, je dirais, de l'utilisation des appareils numériques, hein, en photographie ou en vidéo, et je pratique une activité en amateur sur un ordinateur. Ça, c'est la nouveauté. Alors, on pourrait terminer aussi en croisant un petit peu cette dimension, en réfléchissant avec ce que nous dit Bernard Lahire de l'individu moderne et de sa culture moderne. Hein, Bernard Lahire nous dit aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte de, on va dire, désinstitutionnalisation des savoirs et des loisirs et de la culture. Hein, culture légitime, illégitime, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Voilà. On est aussi dans un contexte d'individualisation où chacun doit affirmer soi-même, devenir, être soi-même. Donc, l'individu d'aujourd'hui a des pratiques culturelles, on va dire, qui sont dissonantes et hétérogènes, c'est-à-dire que chacun fait un bricolage où il prend à la fois des choses qui appartiennent à la haute culture, à une culture légitime, et puis des choses qui sont totalement populaires, et il fabrique ses propres usages. Alors évidemment, derrière, ça nous pose quand même des collections par rapport aux institutions culturelles que sont les bibliothèques, pas nous seuls, hein, mais par exemple au musée, au conservatoire de musique, où on est quand même dans une transmission. Ça pose aussi des questions à l'école ou à la famille. Qu'est-ce que nous transmettons comme valeur, comme œuvre culturelle aux enfants? Alors, du côté des équipements culturels, il faut quand même se dire que cette génération, ces générations connaissent très très bien les équipements culturels. Ils sont les enfants de la démocratisation. Leurs parents les ont quand même très largement emmenés. Alors pas tous, hein, il y a toujours des fractures, mais quand même très largement emmenés. L'école les a très largement emmenés dans les musées, dans les écoles, etc. Et on se rend compte qu'à un certain âge, ça disparaît. C'est très vrai quand on regarde les statistiques des bibliothèques, mais c'est vrai partout. Hein. C'est particulièrement vrai des musées. Hier, j'étais avec un organisme qui fait justement des sondages et des enquêtes, qui fait une enquête en ce moment sur le Palais de la Découverte. Donc, c'est pas un musée, vous voyez, qui fait peur, hein. C'est quand même un musée très largement sur une culture scientifique d'aujourd'hui, avec des expériences pédagogiques, etc. Ils notent qu'ils ont une tonne d'enfants qui viennent, soit, je dirais, avec l'école, soit tout simplement en groupe, y compris en groupe de jeunes pères ou en famille, jusqu'à 12 ans, et puis 13 ans, il n'y a plus rien. Et puis, voir réapparaître quelques jeunes, à nouveau, en groupe ou individuellement, à partir de 18 ans. Et à la limite, les musées l'assument en disant, mais finalement, dans nos musées, nous aurons trois âges de fréquentation, le tout jeune enfant. Et puis le parent qui vient avec ses enfants et le grand-parent qui vient avec ses petits-enfants. Alors est-ce que c'est dans le même cas dans nos bibliothèques? Ne nous inquiétons pas. On vient quand on est très jeune, on y réapparaît en tant que parent avec nos bébés lecteurs et puis après on y vient en grand-parent. Il y a quand même un questionnement, hein, je dirais, de transmission sur nos bibliothèques. Hein, plus on avance en âge, plus on s'en détache. Donc, si on est dans une réflexion sur des stratégies de fidélisation, ça nous pose question. Et puis, quand même, dans le futur, est-ce que nos bibliothèques seront adaptées aux usages, hein, de ces digital migrants lorsque dans 10 ans ou dans 15 ans, ils seront justement parents, hein? Elle est assez radicalement quand même différente de la culture précédente. Quel type de bibliothèque offrir dans le futur?